Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Ce mardi, nous vous convions au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de Xavier Bern sur les logiciels utilisés par les administrations. Et en fin d'émission, la chronique de Vincent Calame sur le livre « Une histoire des libertés associatives » de Jean-Baptiste Jobard. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 23 janvier 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Élise. Bonjour Élise.
Bonjour tout le monde, bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer avec la chronique de Xavier Bern, ancien journaliste et actuel délégué général de la plateforme associative Madada, qui vous explique comment faire valoir vos droits à la transparence sur les documents publics, contrats de marché public, code source, notes de frais, statistiques, etc. Bonjour Xavier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le jour que vous attendez un peu tous depuis le début de ces chroniques au mois de septembre l'année dernière, puisque je vais vous parler de logiciels. Et plus particulièrement des logiciels, ou en tout cas des algorithmes, des programmes informatiques qui sont utilisés par les administrations. Et on n'y pense pas forcément au premier abord, mais ces algorithmes, ils se cachent dans plein de choses du quotidien aujourd'hui. Les feux de circulation, on se doute qu'il y a bien un programme derrière qui définit quand le feu passe au rouge ou passe au vert. Il y a des algorithmes derrière l'attribution d'aides sociales, des APL, la CAF, les allocations familiales, le chômage. Il y en a aussi derrière Parcoursup, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement pour ses problèmes d'opacité. Il y en a aussi également derrière tout ce qui a trait au calcul d'impôts, l'impôt sur le revenu, des taxes, la taxe foncière par exemple, etc. etc. Et tous ces algorithmes, on s'en rend pas forcément compte, mais ces algorithmes qui sont donc utilisés par les administrations, ils ont des implications vraiment sur notre vie quotidienne, et pour éviter que ce soit des boîtes noires, en quelque sorte, notre droit permet, sous certaines conditions, d'obtenir de nombreuses informations relatives à leur fonctionnement. Donc on a parlé de code source tout à l'heure, mais aussi, pourquoi pas, de la documentation technique, des règles de fonctionnement, des traitements dits algorithmiques utilisés pour prendre des décisions individuelles. Et donc ce droit que nous on trouve très précieux, il s'appelle le droit d'accès aux documents administratifs. On a la chance d'avoir en France ce droit qui nous permet d'obtenir gratuitement et relativement facilement tout document en fait qui est produit ou reçu par une administration dans le cadre d'une mission de service public. Et donc parmi ces documents qui sont accessibles à tous au nom de la transparence, du droit à la transparence, qui est un droit qui en plus a valeur constitutionnelle, il y a donc les codes sources. Ça c'est écrit noir sur blanc dans la loi depuis 2016, mais on va avoir aussi tout ce qui peut y avoir autour du code source, comme j'en parlais tout à l'heure, de la documentation technique notamment. Alors, la question que j'imagine que vous vous posez tous, c'est comment s'y prendre pour obtenir un code source? Alors, avant quand même de vous lancer dans une demande, même si c'est assez facile, il est important de vérifier en fait que le code du logiciel que vous souhaitez obtenir n'est pas déjà disponible en ligne. Et pour ça, je vous invite à aller faire un tour sur le site code.gouv.fr. Si vous ne trouvez pas, voici ce qu'il faut faire. Première étape, forcément, c'est d'identifier le code source que vous souhaitez obtenir, par exemple celui de l'algorithme utilisé pour des feux de circulation dans votre ville, pourquoi pas le code source du logiciel qui a été utilisé pour calculer votre impôt sur les revenus de l'année 1998, etc. Je fais volontairement faire référence à l'année là en question 98, même si c'est un peu vieux, parce qu'il est important en pratique de bien dater la version qui vous intéresse pour qu'on vous donne aussi la bonne version du logiciel. Parce que là, typiquement, sur l'exemple que j'ai donné, je pense que les calculs ne sont pas les mêmes en 1998 et 2022, par exemple. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié ce que vous souhaitez obtenir, il faut envoyer votre demande. C'est assez simple en pratique, on fait ça par un courrier ou ça peut être par un mail, il n'y a pas besoin de fournir de justificatif ni de quoi que ce soit. Le plus simple, si vous n'en avez jamais fait, c'est peut-être d'utiliser notre plateforme associative, donc Madada, M-A-D-A-T-A, et qui va vous proposer un texte de demande pré-rempli. Et sinon, je vous invite à retrouver les modèles, et dans tous les cas, vous pouvez retrouver donc ces modèles sur la page de l'émission et aussi sur le forum de Madada. Une fois que votre demande est envoyée, l'administration dispose d'un mois pour vous répondre. Si elle ne vous répond pas, ça équivaut à un refus, dit refus implicite. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de contester, si vous le souhaitez, ce refus devant la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs.
Mais est-ce que ça marche dans la pratique ?
Alors, j'ai peut-être un peu le faire normand, mais parfois oui, parfois non. En principe, ça doit marcher. On le voit aujourd'hui, on a quand même beaucoup de codes sources qui sont ouverts, alors notamment ceux sur qui ont trait à l'impôt, sur le revenu ou même la taxe foncière. Il y en a quand même un certain nombre. Là où ça bloque, en fait, en pratique, c'est lorsqu'il y a des droits d'auteur, du copyright sur les logiciels. N'allez pas demander à l'administration de vous donner le code source du Word qui est utilisé dans votre mairie, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas le code source. Tout simplement parce que la loi, en fait, prévoit des exceptions au principe de transparence, et notamment au titre du secret industriel et commercial, et aussi du droit d'auteur, et donc ce qui justifie que parfois les logiciels ne soient pas ouverts.
Mais alors, tout le monde n'est pas expert ou experte du code source des logiciels, donc pour les personnes qui ne sont pas expertes, comment explorer ce sujet ?
Le droit est assez complet. Comme je disais, c'est tous les documents produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public. Donc effectivement, il y a le code source pour ceux qui vont vraiment chercher à voir comment fonctionne le logiciel, parce qu'ils en ont les compétences. Mais sinon, vous pouvez aussi demander, il y a souvent de la documentation technique qui est en plus de ces codes sources. Ça, bien entendu, c'est communicable. Voilà, dans la demande, comme je l'expliquais tout à l'heure, je parlais plutôt du code source, mais vous pouvez aussi dire que vous demandez de la documentation technique relative au code source en question. Vous pouvez aussi demander, si vous êtes plutôt dans une optique de comprendre comment et pourquoi l'administration a choisi tel ou tel logiciel, demander des documents de marché public. On avait consacré une chronique à ce sujet, donc ça porte sur, par exemple, les contrats, les factures, si vous voulez savoir, par exemple, combien coûte l'utilisation de tel logiciel. Vous pouvez aussi obtenir des rapports expliquant pourquoi il était préconisé de recourir à tel solution plutôt qu'une autre. Voilà, je sais que l'April est bien au courant de ces choses de par ses combats et je sais que vous avez demandé des documents notamment sur pourquoi est-ce que le libre n'était pas privilégié dans certains cas de figure. Je voulais revenir aussi sur un autre outil qui est prévu par la loi, qui est complémentaire et qui vise un autre cas de figure. C'est dès lors qu'un algorithme est intervenu dans une prise de décision administrative. Et voilà, j'ai un peu détaillé tout à l'heure, mais il y en a énormément sur les impôts, les aides sociales, etc. L'usager, premièrement, il doit être informé qu'il y a eu un algorithme qui, à un moment, s'est immiscé dans son dossier. Il doit avoir une petite ligne sur la décision concernant. Et deuxièmement, il a le droit de savoir, en gros, comment et pourquoi l'algorithme en est arrivé à telle conclusion dans son dossier. Et ce droit, il est malheureusement peu connu, et d'où l'importance de ces chroniques de mon point de vue, mais aussi il est mal appliqué de la part des administrations. Et ce qui est quand même assez dommage au regard de l'utilisation croissante des algorithmes par les acteurs publics. Donc je vous invite donc chaudement à vous en saisir. Alors cette fois-ci, c'est non pas en faisant une demande classique de document administratif, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais une demande bien plus simple d'explication, en fait. Et pour cela, vous pouvez faire une demande soit via les espaces en ligne, soit par mail, et en citant cette fois-ci l'article L311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration, je le redis, le L311-3-1, c'est un droit que vous avez, servez-vous-en.
Bah écoute, c'est effectivement un droit important. On a récemment évoqué, je ne sais plus dans quelle émission, l'algorithme de la caisse d'allocation familiale, la CAF, la quadrature du net, ayant fait une demande justement de communication de l'algorithme et du code source, a révélé un certain nombre de dysfonctionnements. Donc je vous renvoie sur libravou.org, vous cherchez CAF ou caisse d'allocation familiale, parce que je n'ai pas en tête le numéro de l'émission. Et j'ai une question d'une des personnes qui participe au Café Libre après. Pourquoi certains documents, Xavier, arrivent caviardés ? Caviardés, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont noircies. Nous-mêmes, à l'April, on a reçu un certain nombre de documents où quasiment tout le document était en fait illisible parce que noirci. Donc, des parties qui étaient complètement en fait inaccessibles. Est-ce que c'est légal et pourquoi c'est fait comme ça ?
Tout à fait, c'est légal. C'est au nom de la protection des secrets dits légaux. Donc, la loi prévoit que les documents administratifs ne sont pas communicables si leur communication peut porter atteinte à certains secrets, typiquement le secret défense, les intérêts nationaux, etc. Mais il y a aussi le fameux droit d'auteur dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup, l'administration a deux choix. Soit elle caviarde simplement certaines parties, les parties qui sont problématiques, ce qui permet de, malgré tout, de communiquer le reste du document, même si parfois bah, le caviardage enlève tout l'intérêt qu'il y avait à obtenir le document. Et sinon, si c'est trop compliqué, à ce moment-là, elle refuse complètement de transmettre le document.
D'accord. Bah, écoute, merci Xavier. Donc, on va rappeler que donc toutes les ressources que tu as évoquées, notamment le tutoriel, sont sur la page de l'émission, donc sur libravou.org/197. Et les personnes qui veulent aller plus loin peuvent aller sur le site de Madada, c'est madada.fr. Donc Madada, dont tu es le délégué général, est une plateforme qui vise à faciliter les demandes d'accès aux documents et données administratifs. Eh bien, Xavier, je te remercie, puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Belle journée à toi.
Merci, bonne émission.
Merci, à bientôt. On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de l'actualité du logiciel libre avec notre équipe de choc qui est autour de moi au studio. En attendant, nous allons écouter Revel par Shelby Mary. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Revel par Shelby Mary, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal et nous vous souhaitons la bienvenue ce mardi à la 4e édition au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection, pour discuter entre elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table, Magali Garnero, libraire, présidente de l'April. Bonjour Magali.
Salut Fred.
Vincent Calame, informaticien, bénévole à l'April et chroniqueur dans Libre à vous. Salut Vincent.
Salut, salut. Je précise que je suis un joker.
Je vais expliquer après la préparation de l'émission. Et enfin, Pierre Bessac, informaticien, libriste de longue date. Tout ça pour dire qu'il est, il est un peu plus vieux que peut-être les deux autres personnes précédentes. Mais surtout, c'est un historique de l'Internet français et, actuellement fondateur d'Eriomen.net, service de stockage et de fichiers. Bonjour Pierre.
Oui, j'ai les cheveux blancs qui poussent là. Bonjour à tous.
Voilà. C'était notamment l'un des cofondateurs de Gandhi, il a fait plein de choses et on a eu déjà l'occasion de l'avoir plusieurs fois dans l'émission du jour. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation parce que c'est un débat effectivement entre les personnes présentes mais aussi les personnes qui nous écoutent. Donc soit par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46 ou alors sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Ou directement sur le site libravou.org, la zone de chat est affichée. Alors effectivement, comme disait Vincent en introduction, c'est un joker, parce que Vincent est là normalement pour faire sa chronique après ce sujet principal. Moi-même, je suis aussi un joker, parce que Vincent remplace Isabelle Carrère qui devait intervenir mais qui a un contretemps. Moi, je remplace Étienne Gonu qui avait préparé le sujet avec vous et qui a un contretemps ce matin. Donc voilà, c'est une émission avec deux jokers et puis deux...
Deux titulaires,
Pierre et Magali. Alors, on a un certain nombre de sujets. Alors voilà, vous excuserez peut-être partie un petit peu flou de ma part, parce que comme j'ai repris la préparation de l'émission tout à l'heure, un certain nombre de sujets qu'on va évoquer, et puis plus ou moins longuement, en fonction de ce que vous avez à dire, et puis de l'intérêt du sujet. Alors, on va commencer par un anniversaire. Premier sujet, Blender a eu 30 ans le 2 janvier 2024. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Blender? Qui veut commencer? Ah, Magali, vas-y.
Moi, je vais commencer parce que je n'y ai jamais touché, donc je suis la mieux placée pour en parler. Blender, c'est un logiciel de modélisation et d'animation 3D. C'est-à-dire que ça fait plein d'animations, de dessins animés, ainsi de suite. Ils sont connus depuis belle lurette et ils utilisent ce logiciel-là depuis le 8 janvier 1994. 8 janvier 1994, ça fait 30 ans. Ils sont plus vieux que l'April. Donc, ça, c'est amusant. On en est à la version 4.0.2. Donc, c'est pas parce que du temps passe qu'il y a beaucoup de versions. Là, on est vraiment en mode qualité. Je me suis renseignée. C'est fait en langage C, C++ et Python. Et ils utilisent une licence publique générale, la GNU 3, la GNU version 3. Donc c'est un beau logiciel qui demande un coût d'entrée assez important et qui a fait de très belles choses.
Alors peut-être préciser, c'est pas la GNU 3, c'est la GNU GPL 3, version 3, c'est pour General Public License, donc licence publique générale, donc effectivement. Et ça sert à quoi en fait Blender, Pierre?
Alors, ça sert à faire des modélisations d'objets 3D. Alors, ça peut être pour des créateurs. C'est plutôt orienté jeux vidéo artistique. Hein. C'est pas fait pour des objets industriels. Et c'est reparti de tout petit dans les années 90, en fait. Ce qui est intéressant avec Blender, c'est qu'aujourd'hui, c'est un logiciel libre qui est au niveau des meilleurs logiciels du marché. En fait, il a rattrapé les logiciels commerciaux. Mais il y a 30 ans...
Le logiciel propriétaire.
Oui,
parce que logiciel libre peut être commercial.
Il est parti, d'une petite bande de développeurs qui vendaient les prestations par-dessus, mais le logiciel lui-même n'était pas libre. Il était donné gratuitement et il fonctionnait sur des systèmes libres, par contre. Et c'est parti de tout petit. C'est-à-dire que c'était loin, derrière des logiciels extrêmement chers, comme quelque chose qui s'appelle Maya, par exemple, qui est un logiciel professionnel utilisé par les graphistes. Et petit à petit, il a fait son bonhomme de chemin. En fait, au bout d'une dizaine d'années, les investisseurs de la boîte ont dit, bon, bah, ton truc, là, ils ont dit au développeur principal, en fait, ton truc, ça rapporte pas grand chose, on voudrait se retirer. Et donc, en gros, la boîte était mise en faillite. Hein. Et le développeur, en 2002, s'est dit, bon, bah, c'est quand même dommage de plier tout ça. On va racheter, en fait, le code source du logiciel et on va continuer à bosser dessus, on va le diffuser en libre. Et donc, il a fait une collecte pour réunir 100 000 euros en 2002. pour créer une fondation à but non lucratif pour gérer le logiciel. Et à partir de là, le logiciel est devenu libre et contributif. Et donc, il s'est développé, il a fait son petit bonhomme de chemin. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un logiciel assez compétitif avec ce qui existe en beaucoup plus cher par ailleurs. Voilà. Et donc, on peut faire des animations, on peut faire des effets spéciaux, on peut faire des incrustations, on peut même faire un peu de montage vidéo avec. On peut, par exemple, on peut faire du tracking, c'est-à-dire on peut prendre une vidéo classique, en réel, et puis donner des points de tracking au logiciel pour lui dire, toi tu vas me faire tourner un objet 3D que j'ai simulé par-dessus et l'incruster. Donc on peut mettre un robot dans une scène ou une soucoupe volante. Enfin, il y a plein de choses géniales dans ce logiciel, et donc ça sert pour des concepteurs de jeux vidéo maintenant, ça sert pour plein de choses. Et il y a une communauté très forte derrière.
D'accord. Alors, le développeur à l'origine, c'est Ton Rosendahl.
C'est ça.
Effectivement, comme tu le dis, ce qui est intéressant, donc on a, si vous voulez en savoir un peu plus sur Blender, je vous envoie l'émission 108 de Libre à vous, donc sur libreavoue.org/108, on avait parlé d'outils libres pour le graphisme et la vidéo, dont Blender. Donc c'était à l'origine un logiciel privateur, propriétaire. La boîte, entre guillemets, fait faillite, ou en tout cas les investisseurs ont voulu arrêter. Ton Rosendahl a négocié le rachat des droits d'auteur pour le transformer en logiciel libre. À l'époque, il est demandé 100 000 euros, et en fait, la somme a été réunie assez rapidement. Et ce qui fait que depuis maintenant 21 ans, c'est un logiciel libre et qui produit des dessins animés en termes de démonstration qui sont très très sympas à voir. Alors, j'ai plus les noms en tête des dessins animés. Alors peut-être
que tu les as tous.
Ah, tu les as tous. Alors peut-être que tu les as tous. Alors
je vais pas tous les citer,
ouais,
mais
les plus connus, ou en tout cas
je vais
les plus
Big Bug Bunny.
Ah, Big Bug Bunny.
Parce que c'était très drôle.
Ça raconte quoi, Big Bug Bunny?
Alors Big Bug Bunny, c'est l'histoire d'un énorme lapin qui se fait embêter par. Alors, je sais pas si c'est des rats, des écureuils.
Un écureuil, oui.
Ouais, des écureuils, voilà, c'est des
petits
rongeurs.
Ah, mais Vincent,
comme ça.
Je
l'avais vu, oui.
D'accord, tu me diras ce que t'en penseras après. Vas-y, Magali, continue.
Voilà, ça date de 2007, donc c'est assez âgé, et c'est vraiment super drôle et assez court. Donc, je conseille vraiment les gens d'aller le voir. Je vais aussi vous parler de Sintel. Là, c'est une jeune fille qui part à la recherche de son animal de compagnie, mais alors je sais plus si c'est un dragon ou, enfin bref, quelque chose, et ça va lui prendre toute sa vie. C'est hyper émouvant, donc je conseille vraiment Le Mouchoir, et ça avait été fait par une équipe sous la direction de David Revoy, dont on a souvent parlé.
Alors, on a peut-être souvent parlé que David Revoy, mais rappelle qui c'est.
Alors, David Revoy, c'est un homme formidable que j'adore et qui a fait la bande dessinée Pepper et Carotte. Et Pepper, c'est une petite sorcière du carreau qui est consolée de toutes ses bêtises par son chat qui s'appelle Carotte, qui est un petit chat roux. Voilà, et il travaille énormément sous logiciel libre, David, et il publie cette série-là sur son blog.
Et il fait beaucoup d'illustrations libres pour Framasoft.
Voilà. Toutes les campagnes de Framasoft, c'est lui, c'est voilà. Et je vais vous parler du dernier, Sprite Fright. Je vous en parle parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Donc, si quelqu'un l'a vu et qui nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous en parler, que ça nous donne envie d'aller le voir.
D'accord. Et en attendant que quelqu'un nous appelle, nous fasse un retour sur le salon web, Vincent, toi, tu avais vu le premier, c'est ça qu'a cité Magali?
Oui, c'était l'exemple. Alors bon, un logiciel libre, ça va pas remplacer un bon scénario, hein, parce que le cas c'est d'abord une œuvre artistique, mais effectivement, maintenant, toute œuvre artistique a derrière elle un arrière-plan technique gigantesque. Donc, tant mieux heureusement que c'est en libre. Je sais pas, il me semblait que c'était très utilisé dans l'industrie même du dessin animé, mais j'ai
alors
pas
moi je crois me souvenir, mais comme l'a dit Pierre tout à l'heure, qu'effectivement c'est très utilisé, que c'est un niveau professionnel. Est-ce que vous savez est-ce que vous avez une idée de, parce qu'aujourd'hui c'est donc géré par une fondation, la fondation Blender. Est-ce que vous avez une idée des sommes que la fondation récolte en termes de dons ou autres? Même vague.
En détail, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont eu un méga don de la part de Epic Games, qui est un énorme, un des plus grands éditeurs de jeux vidéo de la planète, en fait. Voilà, donc ils ont un soutien majeur de la part de l'industrie, en fait.
D'accord.
Il me semble qu'ils sont même utilisés par Ubisoft, qui est un autre éditeur de jeux vidéo assez connu, il me semble même français.
C'est Ubisoft est français, oui.
Donc, voilà, il y a plein de jeux qui sont faits par Ubisoft, et donc, derrière lequel il y a du Blender.
Donc, un outil libre qui à l'origine était privateur, qui existe depuis 30 ans, dont le développement continue, qui est soutenu par l'industrie parce qu'effectivement ils ont besoin d'un outil plutôt que de développer chacun dans leur coin leur propre outil ou de mettre des millions dans un outil privateur dont tu as cité le nom tout à l'heure mais que j'ai oublié, Pierre. voilà, c'est de la coopération.
Il y en a d'autres, hein, c'est un des plus connus, mais il y a plusieurs autres ténors de l'industrie. Mais qui
d'accord.
Sont
bon, en tout cas, on constate qu'il y a des logiciels libres qui sont développés sur la durée, Vincent.
Oui, et ça permet aussi de se libérer d'un matériel privateur, parce que dans ce monde-là du graphisme, c'est Mac qui dominait énormément, et Blender, elle, par contre, je pense, fonctionne n'importe où. Ça a aussi permis de se libérer du matériel qui était pratiquement obligatoire, en plus des logiciels.
Ça oui. Fonctionne même sur le système que j'utilise, qui est un peu plus confidentiel, qui est FreeBSD. Donc voilà, je ne peux que aimer Blender. Alors, libre.
Avec Pierre, on se connaît depuis quelques années, parce que j'allais justement lui faire la blague que ça tournait même sur FreeBSD, qui est un autre système d'exploitation libre. Alors qu'on cite moins souvent que GNU Linux ici, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins connu. Il y a moins de communauté d'entraide, on va dire, pour le grand public. Mais par contre, ça m'a fait penser, tout à l'heure quand j'y ai pensé, que je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission libreavoue.org sur justement FreeBSD, enfin sur les autres types de systèmes d'exploitation de type Unix libre en dehors de GNU Linux, parce que voilà, il y a FreeBSD, NetBSD et d'autres, et tu es effectivement un spécialiste, et ça me fait penser que Blender tourne sur nombreuses plateformes, y compris des plateformes comme Windows, Mac, oui.
Windows, ça tourne à peu près sur tout, hein, maintenant.
À peu près sur tout, voilà. Oui. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par tout le monde, et donc, qui vient de fêter ses 30 ans, et effectivement, qui est un poil plus vieux que l'April, vu que nous, on a été fondé en 1996. Voilà.
Légalement.
Pardon?
Légalement, en 96.
Ah ben la création de l'association datait de quelques semaines avant la date de création, donc c'était à peu près pareil, quoi. Ok, donc Blender. Si vous êtes en région parisienne, alors je crois que c'est les premiers samedis du mois. Je crois que dans le cas du premier samedi du Libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y a des réunions du groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices d'Île-de-France de Blender. Je vérifierai, on mettra la référence, mais en tout cas, il y a un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de Blender en région parisienne, et je pense qu'il y en a sans doute d'autres ailleurs. Ouais. Non, je vérifierai, je mettrai la référence sur le site de l'émission. À moins que vous confirmiez si... Non, je vois au regard que non.
Oui, ils participaient souvent au premier samedi du Libre.
Voilà.
Oui.
Ouais, mais tu sais pas si ça continue, en fait.
Non, après, le confinement a tellement changé de choses.
Je note de vérifier.
Mais ils étaient là.
Et je crois que ça s'appelle le bug.
Oui, c'est ça, c'est très drôle.
Blender User Group. Ouais. Le bug étant aussi une erreur de programmation, un problème en informatique. Ok, bon bah voilà, c'était une petite introduction sur un logiciel, effectivement. Donc Blender, et pour plus d'informations sur blender.org. Donc changement de sujet, alors là c'était un peu plus technique. Pierre, on va demander à Pierre d'intervenir le premier sur ce sujet-là, vu ce qu'il vient de dire.
Je sens que je sais de quoi tu vas parler.
Ah bah écoutez, moi je suis le joker, on m'a donné une liste de sujets qu'il faut que je lance, et puis voilà. Une nouvelle version du noyau Linux a été publiée. Et selon ZDNet, on va balancer, hein, il s'agit d'un très gros bébé, dans le sens où, visiblement, c'est une version dans laquelle il y a beaucoup de lignes de code, avec un certain nombre de rajouts de fonctionnalités. Alors, avant peut-être de rentrer dans le détail, mais très rapidement, parce qu'en fait, finalement, on a l'article, hein, mais ça, c'est quand même très technique, c'est peut-être l'occasion quand même de rappeler ce qu'est un noyau de système d'exploitation. Et ça, je pense que Pierre, tu sais à peu près de quoi ça parle.
J'ai révisé un peu avant.
Voilà, donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi vraiment le noyau Linux?
Alors, le noyau d'un système d'exploitation, c'est la partie centrale du système qui démarre quand on allume l'ordinateur et qui fait un peu l'intermédiaire entre les programmes que nous on utilise et le fonctionnement du matériel. C'est-à-dire, il contient tous les pilotes du matériel et ça permet d'avoir des logiciels qui sont pas trop au courant du type de souris qu'on utilise, du type d'écran qu'on utilise. Donc, ça isole. En fait, ça permet d'avoir des logiciels qui fonctionnent sans trop se casser la tête sur n'importe quelle machine, en fait. Et ça gère le réseau, ça gère la sécurité, ça gère toutes les choses centrales du système. Et ça protège également les programmes les uns des autres. Alors, à une époque, quand on avait des systèmes plus spartiates, on avait moins de protection. Mais depuis qu'il y a des systèmes comme Linux ou tous les systèmes professionnels, en fait, on a des protections entre processus pour éviter que tel programme malveillant puisse attaquer. Donc ça permet des protections antivirus, ça permet tout un tas de choses. On fait évoluer ça, évidemment, au fil du temps pour intégrer de nouveaux périphériques, de nouvelles cartes réseau, etc., de nouvelles cartes graphiques et de nouveaux protocoles de nouveaux protocoles réseau. Voilà.
Et donc aujourd'hui, quand on installe une distribution GNU Linux, sur la distribution, il y a le noyau Linux, il y a un certain nombre de logiciels, tout s'installe tranquillement, sans trop de soucis. Je précise ça par rapport à il y a quelques années où en fait il fallait quasiment compiler son noyau si on voulait rajouter par exemple un pilote pour un périphérique. Aujourd'hui, c'est utilisable par toutes les personnes en fait.
Alors oui, bah moi je peux même dire que récemment j'ai, pour des raisons bassement, de maladie ferroviaire, je me suis installé un Windows et je me suis aperçu que Linux était plus facile à installer que Windows en fait. Quand on n'achète pas une machine toute installée, finalement les distributions Linux d'aujourd'hui sont ultra faciles à installer, c'est impressionnant. Ça démarre et puis même si on veut pas l'installer d'ailleurs, on peut le tester avec une simple clé USB. Donc un truc qui vaut 10 €, si on veut pas risquer d'abîmer ce qu'on a installé déjà sur l'ordinateur. Et Windows, c'est une autre paire de manches en fait. C'est assez marrant de voir. Et donc en fait, on a des systèmes qui se démarrent facilement, qui sont très faciles à configurer et qui sont très accessibles. Donc il y a le noyau effectivement qui démarre et puis derrière il y a tous les outils, votre navigateur, votre traitement de texte si ça vous plaît, toute la gestion des casques, des haut-parleurs, des écrans, tout ça fonctionne sans souci en fait.
D'accord.
C'est 30 ans qu'on attendait d'y être et là on y est en gros.
Alors justement j'allais dire que le noyau Linux 1991, la première version, les familles BSD, les noyaux BSD c'est quelle époque à peu près?
Alors, c'est les années 70-80 pour les...
Mais en libre.
Les versions libres sur PC, c'est 91-93, en gros.
D'accord.
Il y a un gars qui s'appelait Bill Jolitz, et sa femme, Bill et Lynn Jolitz, qui ont pris ce qui existait sous forme de noyau libre à l'époque, qui venait de l'université de Berkeley, d'où le nom B dans le BSD. Et ils ont fait marcher ça sur PC et après ça a été récupéré en mode contributif pour en faire différentes souches de logiciels libres. Oui.
D'accord. Alors bon, on fera clairement une émission sur la famille des BSD. BSD voulant dire Berkeley Software Distribution, distribution de logiciels de l'université de Berkeley. Alors on me signale en régie qu'on a eu quelques coupures visiblement en diffusion FM et sur Internet, mais vous inquiétez pas, en podcast il n'y a pas de coupure vu que c'est enregistré en local. Donc n'hésitez pas à nous signaler sur Salon Web si vous avez de nouveau des coupures, mais privé de l'autre côté, c'est bon. Donc cette nouvelle version du noyau Linux, dont je vous renvoie vers la version, vers l'article qu'on a mis en ligne sur le site de l'émission, donc sur libravou.org/197, qui détaille justement quelques nouvelles fonctionnalités comme le système de fichiers dont tu as parlé. Il y a des nouveaux systèmes de fichiers, des modifications au niveau des cartes graphiques, au niveau du CPU. Voilà. Est-ce que Vincent Magali, est-ce que là-dessus vous voulez dire quelque chose?
Ah, moi c'était une question en fait.
Ah ben, vas-y, une question.
Il y avait
vas-y.
Une émulation en 32 bits. Ah. Alors du coup, je sais, 64 bits, je voyais, mais alors 32, je sais pas. Du
alors
coup,
Pierre ou Vincent, qui veut répondre?
Vincent, vas-y, si tu veux. Non, 32 bits, c'est les anciennes machines, en fait, les machines jusqu'il y a à peu près il y a 20 ans, 15-20 ans, tout était en 32 bits. Et puis les processeurs devenant plus puissants et plus rapides et avec plus de mémoire, on a créé les processeurs 64 bits qui permettaient d'exploiter le matériel. Mais alors du coup, c'est pas compatible, il fallait réécrire les logiciels. Voilà. Donc il y a toute une période, on arrive un peu au terme maintenant, pratiquement tout est en 64 bits directement, mais il y a eu toute une période où il fallait quand même continuer à faire tourner les logiciels anciens qui avaient été écrits à l'époque du 32 bits. Il y a eu d'autres périodes après, quand on est passé du 16 au 32, du 8 au 16, etc. Mais là, c'est encore plus loin.
Et donc là, dans ce nouveau noyau, il y a une option qui permet d'activer ou de désactiver l'émulation 32 bits, qui permet donc de désactiver ou d'activer le démarrage d'application 32 bits sur les systèmes, donc 64 bits. Voilà. Donc, je vous ai dit que ça serait un peu plus technique que d'habitude, mais voilà, c'est en tout cas une des options. Et de toute façon, ça sera intégré, ce nouveau noyau, dans votre distribution favorite. Alors, en fonction de la distribution, hein, c'est plus ou moins rapide. Actuellement, je pense que dans les distributions, on doit être dans la version 6.5 ou 6.6, je ne sais plus exactement. En tout cas, voilà. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose ?
6.7.
Ça, c'est la nouvelle version, 6.7.
Oui, non, j'ai juste réagi à un moment, tu as dit, il y a quelques années, il fallait compiler le noyau. Bon, c'était il y a quand même très longtemps qu'il fallait compiler le noyau. Ça fait quand même un certain temps que le noyau est compilé et disponible dans les distributions.
Tout à fait. Quand je disais quelques années, c'était il y a quand même...
Non, et puis, dans Pierre aussi, à un moment, tu as parlé d'un casque et j'ai l'impression que c'est uniquement dans le nouveau noyau qu'on sait gérer les casques audio.
Alors, mais, non, attends, non, tu je plaisantes, rassure. Mais dans FreeBSD, il n'est pas possible de brancher un casque en Bluetooth. Il n'y a pas la fonction, parce que c'est plutôt un système qui est destiné au serveur et pas tellement aux machines de bureau.
Il n'y a pas encore la fonction.
Oui, pas encore.
Voilà.
D'ici 2040, peut-être, je ne sais pas.
C'est méchant.
En fait, c'est des systèmes qui ont des objectifs différents et qui ont sans doute des publics cibles différents, mais on consacrera vraiment une émission à cette famille de logiciels libres.
Et je pense aussi, c'est quand on parle de néo-Linux, c'est le seul moment où on peut parler de Linux tout seul, alors que quand on parle de distribution Linux, on fait une erreur parce que c'est une distribution GNU/Linux.
Exactement. Écoutez, on va faire une petite pause musicale parce que finalement on avance quand même plutôt pas mal dans l'émission et puis le sujet d'après est un petit peu lourd, donc on va peut-être faire une pause musicale en attendant. Donc nous allons écouter Balkarabic Chicken par Quantum Jazz. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Balkarabic Chicken par Quantum Jazz, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal. Vous êtes au Café Libre avec Magali Garnero, Vincent Calam, Pierre Bessac et moi-même Frédéric Couchet. Et on parle de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Alors là, on va quitter le domaine un petit peu technique pour entrer dans le domaine européen et puis responsabilité avec le Cyber Resilience Act, dont la version finale vient d'être publiée. On va revenir un petit peu sur ce sujet. Peut-être qu'on va commencer par rappeler ce qu'est le Cyber Resilience Act. Pierre ?
Oui, alors le Cyber Resilience Act, c'est tout un tas de mesures destinées à forcer en fait les entreprises qui utilisent le logiciel ou les éditeurs de logiciels à prendre des précautions contre les attaques contre leur logiciel en fait. Voilà. Et donc il y avait tout un tas d'obligations d'audit auprès des éditeurs et auprès des exploitants de logiciels pour leur demander de prendre des précautions en fait et de vérifier que leur logiciel était conforme aux précautions. Et il y avait une inquiétude par rapport au logiciel libre, parce qu'évidemment, quand on est un développeur bénévole sur un projet bénévole, et comme il y en a certains qui sont utilisés, comme OpenSSL par exemple, qui sont utilisés littéralement par toute la planète avec des développeurs qui crèvent pas la dalle, mais enfin quasiment en fait, il y a eu des cas comme ça de logiciels extrêmement stratégique,
critique,
utilisé par un nombre de sociétés hallucinant, enfin pratiquement tout l'internet en fait.
Bah, explique ce que c'est qu'OpenSSL.
Alors OpenSSL, c'est ce qui permet de faire du chiffrement dans le navigateur, mais dans toutes les applications qui utilisent du chiffrement. Le chiffrement lui-même s'est énormément déployé depuis l'affaire Snowden, où il a été révélé que les services secrets américains écoutaient tout ce qui n'était pas chiffré autant qu'ils pouvaient et en violant d'ailleurs la loi américaine au passage. Donc en fait il y a une réaction de tous les milieux réseaux en se disant c'est quand même pas normal, on a du chiffrement qu'on a légalement le droit d'utiliser, donc on va déployer du chiffrement partout. Donc ça a utilisé des logiciels comme OpenSSL pour puisque c'est tout la couche de base disons de chiffrement était déjà écrite, c'est des logiciels quand même assez sensibles, donc on peut pas écrire ça en faisant un TP dans un coin de son salon le soir. Le problème, c'est que les développeurs qui gèrent ça étaient essentiellement bénévoles, pas payés pour ça. Et donc, en fait, on a des cas où on peut pas imposer à des développeurs bénévoles des obligations qui sont pas les leurs, en fait. Des logiciels sur lesquels ils n'ont pas les moyens de faire des audits extrêmement coûteux. Donc, ça repose éventuellement sur du contributif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des centaines, des milliers d'experts qui vont examiner le logiciel pour essayer d'en détecter des failles et les corriger. Mais imposer des obligations légales là-dessus et engager leurs responsabilités, ça pouvait franchement empêcher littéralement d'écrire de logiciels libres sur ces sujets, enfin sur quasiment tous les sujets. Donc le Cyber Resilience Act a été amendé vu les alertes qui ont été lancées sur ces sujets pour border un petit peu le cas du libre et tout ce qui est non lucratif en fait. Il y a tout un tas de corrections qui ont été faites. Il y a un Hollandais, Bert Hubert, qui est spécialiste de ces sujets, qui a écrit un article pour expliquer. Il avait levé les inquiétudes il y a quelques mois là-dessus, et il a expliqué que dans les dernières versions du texte, c'était quand même relativement bien bordé. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas être attentif à ce que ça va donner, mais les grosses bêtises vis-à-vis du logiciel libre en la matière ont quand même été relativement évitées.
Alors, si j'ai bien compris, ces éclaircissements tournent notamment autour de la définition de l'activité commerciale pour faire peser la responsabilité sur des acteurs qui ont, enfin des entreprises notamment, qui ont une activité commerciale autour du logiciel libre. Et puis la deuxième clarification peut-être aussi, c'est pour protéger les PME, PMI, les petites et moyennes entreprises, notamment européennes, qui évidemment n'ont pas les mêmes moyens que des grandes entreprises, notamment américaines, qui ont des bardés d'avocats et qui peuvent se protéger beaucoup plus efficacement. C'est à peu près, si j'ai bien compris, les éclaircissements.
C'est ça, c'est que l'Europe aime bien réguler ce qui est légitime. On est aussi en partie dans une position de forteresse assiégée vis-à-vis des majors américaines. Donc on veut se protéger contre les abus des grosses sociétés américaines qui se sont créées. Et c'est aussi vrai d'ailleurs dans l'AI Act qui est en train d'être écrit. Mais il ne faut pas que ça puisse...
AI, c'est quoi ?
Artificial Intelligence donc, Act,
okay, qui est sur l'intelligence artificielle.
Voilà, qui n'est pas encore finalisé. Il y a un brouillon qui est fuité hier. Il fait 892 pages. Parce qu'il y a les quatre. En fait, il y a les quatre versions présentées en colonne. Enfin, le texte final, il doit faire aux alentours de 150-200 pages. Mais donc là, il y a les quatre versions présentées avec les différences. Donc il y a le même type de problème, c'est que c'est bien de réguler, mais il faut pas le faire de manière à littéralement empêcher soit les libristes, soit les chercheurs, soit les PME aussi. Faut pas leur tirer une balle dans le pied En leur demandant, en leur imposant des obligations que seules des grosses compagnies peuvent respecter, en fait.
Alors, j'imagine notamment les personnes qui font de la recherche en sécurité informatique, donc qui visent à améliorer notamment les algorithmes de chiffrement et compagnie, donc qui c'est ont ça. Besoin sans doute de faire des choses que cette ce projet de règlement pouvait éventuellement mettre en danger. Là-dessus, Vincent, Magali, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou...
Des précisions, c'est une directive, c'est ça ?
C'est un règlement européen.
Juridiquement,
oui, non,
je lis ce que j'ai devant moi. C'est un projet de règlement européen visant à renforcer les règles en matière de cybersécurité afin de garantir une plus grande sécurité des produits matériels et logiciels en Europe. L'idée, effectivement, c'est de faire une sorte de norme CE sur des produits numériques. Donc, c'est un projet de règlement. Et là, en fait, la version qui a été entre guillemets finalisée, c'est une version, c'est un équilibre entre les trois institutions qui sont au niveau de l'Europe. Hein. La Commission européenne qui propose des projets de directive ou de règlement, le Conseil de l'Union européenne qui est la réunion des personnes représentant des gouvernements des différents États membres, et le Parlement. Donc c'est pas encore voté définitivement parce que ça doit être
validé par le Parlement européen.
Doit être ratifié par le Parlement européen, et s'il est ratifié avant d'avoir force de loi, ça devrait rentrer en application 36 mois après. À part quelques exceptions près. Donc le processus n'est pas totalement fini, mais à partir du moment où il y a un accord effectivement des trois principales institutions européennes, ce qu'on appelle le trilogue, normalement le texte devrait être ratifié par le Parlement européen.
Mmh. Oui, parce que là, il n'y a pas de transcription dans le droit français. Est-ce qu'il y aura des débats au niveau français
Effectivement, c'est d'application directe.
C'est d'application directe. Voilà. C'est comme le RGPD, le règlement général sur la protection des données. D'accord. C'est d'application directe. Voilà.
Par contre, il peut y avoir des besoins de modifier la loi française pour qu'elle soit pas contradictoire avec le règlement.
Ce qui ne veut pas dire que le gouvernement ne va pas essayer de légiférer alors qu'il y a déjà un règlement. Hein.
Oui.
Je veux dire, ça n'exclut
par exemple,
rien.
Pour le RGPD, qui est également un règlement, le règlement général de protection des données, qui était inspiré des lois type CNIL, il a fallu quand même faire quelques modifications à la loi française pour adapter le droit français.
Voilà. Et il y a une petite encore aussi... pas source d'inquiétude, mais alors déjà il y a une source d'inquiétude, c'est comment ça va être interprété toutes ces dispositions, parce qu'évidemment, et puis il y a aussi une définition du logiciel libre qui est donnée dans ce règlement, dans laquelle en fait il y a le fait que ce soit développé de façon collaborative sur Internet pourrait rentrer dans la définition, alors que c'est normalement pas dans la définition telle que nous on la connaît à partir des quatre libertés du logiciel libre. Donc voilà, il y a encore quelques petites choses à faire, mais en tout cas effectivement il y a une mobilisation d'un certain nombre de personnes, de structures du monde du logiciel libre, et visiblement les inquiétudes ont été entendus au niveau européen, donc c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Évidemment, on met les références des textes intéressants sur le site de l'émission, donc sur libreavoue.org/197, et on vous tiendra évidemment informé à la fois du vote et puis de la publication, notamment en français, d'analyses poussées, parce que la difficulté sur ce genre de dossier, c'est d'avoir des analyses écrites en français et bien détaillées. À moins que tu en connaisses déjà, Pierre.
C'est-à-dire que ce sont des textes extrêmement consistants, et qui évolue. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que là, on va avoir les élections européennes en juin, donc là, le Parlement va être complètement renouvelé, et les parlementaires de la mandature actuelle ont envie de boucler tous les dossiers. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu. C'est un petit peu hâté pour ça, enfin hâté entre guillemets, parce que
oui,
ça fait quand même deux ou trois ans qu'ils bossent là-dessus. Mais ce sont des sujets qui touchent à la société de l'information, sur des sujets qui deviennent de plus en plus essentiels. Il y a une nécessaire grande prudence sur ces sujets-là. Écouter les lanceurs d'alerte entre guillemets, enfin les gens qui pointent les problèmes des textes. Donc ça réclame pas mal de travail et ça. En fait, ça bouillonne tout le temps, et c'est pour ça qu'on a une version relativement tard. En fait, la version actuelle, elle a fuité il y a quelques jours, donc c'est très difficile à suivre en fait, parce que ce sont des projets très lourds, très copieux, où le moindre virgule peut avoir des implications importantes. Et donc voilà, tout le monde est un peu charrette là-dessus, je dirais. C'est un truc qui est géré un peu à l'arrache, et faut essayer de faire au mieux pour pas se tirer des balles dans le pied, quoi. Voilà.
Alors, c'est vrai que là-dessus, sur l'aspect transparence, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez positives au niveau européen, sur la transparence, au niveau parlement, texte, amendement. Mais c'est vrai que les négociations au trilogue, donc, qui réunit les trois institutions, il y a un peu plus de confidentialité, de porte close. Et effectivement, avant d'avoir la version finale et de savoir quels ont été les échanges pour arriver au point d'équilibre, c'est assez compliqué. Donc ça devrait arriver effectivement assez rapidement, comme tu le dis, vu qu'il y a les élections européennes de juin qui arrivent. Et j'en profite pour signaler, comme Pierre, tu as suivi ce dossier avec nous également, qu'en 2019, il y a eu la révision de la directive sur le droit d'auteur et que la Commission a déjà annoncé que l'un des projets de la prochaine mandature européenne à partir de 2024 serait une nouvelle révision de la directive droit d'auteur qui devrait évidemment nous occuper.
Ça va être intéressant.
Voilà, exactement, quoi. Donc c'était donc le cyber résilience acte. Donc on vous donnera évidemment informé de la suite des opérations. On va changer de sujet. Alors là, on va changer carrément totalement de sujet. Alors là, j'avoue que c'est un sujet que j'ai totalement découvert. En fait, j'ai découvert ce matin quand j'ai compris qu'il fallait que j'anime l'émission. Centipède. Alors. Ça, c'est, je crois que c'est Pierre qui a proposé.
Oui.
Et donc, un géocommun. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un géocommun? Qu'est-ce que c'est que Centipède? Vas-y, introduis-nous le sujet.
Alors, Centipède, c'est un réseau de récepteurs. Alors, c'est des récepteurs GPS, on va dire, pour simplifier. En fait, c'est un peu plus que le GPS. Qui vise à avoir un réseau de référence pour avoir un GPS amélioré, si tu veux. Donc, au lieu d'avoir une précision de 4-5 mètres, comme le GPS habituel classique, on a une précision de quelques millimètres. Alors, à quoi ça sert? En particulier, ça sert pour
millimètres,
les
millimètres carrément.
C'est quelques millimètres littéralement.
D'accord.
Alors, on peut faire mieux depuis, mais ça coûte encore plus cher. Mais donc là, c'est des petits appareils un peu plus coûteux que des GPS classiques. Hein. Ça coûte ce que coûtait le GPS il y a 20 ans. Donc ça revient entre 300 et 500 euros le récepteur. Et ça intéresse notamment les agriculteurs. Pourquoi? Parce que ça leur permet de faire tourner le tracteur autonome dans leur champ, parce que c'est une précision suffisante qu'on n'a pas le GPS classique. Et il existait des constructeurs enfin des fabricants de tracteurs qui vendaient ça sous forme d'options propriétaires, en fait.
Et très cher.
Très cher, voilà. Avec des abonnements, bien entendu, parce qu'il suffit pas de vendre le matériel, c'est aussi bien si tu peux avoir un revenu récurrent. Donc des abonnements type 10 000 euros par an, du matériel à l'acquisition peut-être 10 000 euros. Tout ça pour des choses, des techniques qui sont, enfin je dirais pas banales, mais relativement simples à mettre en œuvre. Donc il y a des gens qui ont travaillé sur refaire ces protocoles sous forme de logiciels libres. Utiliser les stations de type les références type IGN, donc l'Institut Géographique National, qui diffuse des références, c'est leur métier en fait, une de leurs activités, diffuser des références précises pour le positionnement géographique, pour les géologues, les architectes, etc., les géomètres, pardon. Donc en fait, l'INRAE, donc c'est l'Institut National de Recherche en Agronomie,
l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
D'accord, merci. L'INRAE, c'est une équipe de l'INRAE en fait, a décidé de déployer un réseau de bornes libres en France.
Alors, petite question, est-ce que c'est, parce que moi j'ai quand même lu le texte qui est mis en référence, est-ce que c'est l'initiative de l'INRAE ou c'est un agriculteur qui a, parce que moi j'ai compris que c'est un agriculteur qui a commencé ce projet, qui a ensuite eu le soutien de l'INRAE?
Alors c'est possible qu'il y ait eu, je connais pas ce détail de l'histoire. Effectivement, des agriculteurs ont commencé à déployer ça pour leur utilisation personnelle, sachant que donc il faut une borne. En fait, en gros, il faut une borne de référence, donc une borne dont on connaît très bien la position. Donc il faut faire un petit calcul préalable, un petit réglage préalable, et ensuite la borne diffuse sa position et la comparaison, la différence avec les positions reçues par le GPS classique et les autres satellites de navigation comme Galileo européen, etc.
D'accord. Donc ce qui permet de passer d'une précision GPS à quelques mètres près à une précision quasiment millimétrique avec ce système. D'accord.
Ça. Donc un agriculteur peut installer ça dans sa ferme et puis ça permet d'arroser la région entre guillemets, tous les gens qui veulent utiliser, s'il veut diffuser les résultats de ses mesures, bien entendu, il n'est pas obligé de le faire, mais s'il ouvre ça à ses collègues, ça peut être utilisé dans un rayon de 20, 30, voire même plus kilomètres. Hein. Ça dépend de la précision. On perd de la précision au fur et à mesure qu'on s'installe de la base de référence, mais on peut avoir des résultats sympas jusqu'à 100 km. Hein, j'ai fait des tests moi-même. Donc, en gros, il y a la France rurale est quasiment toute couverte parce que c'est tellement intéressant pour les agriculteurs qu'ils ont été les premiers à l'utiliser. Mais c'est également utilisé pour des gens qui font de la recherche sur les marées, par exemple. Ça permet d'avoir une bien meilleure précision de mesure de la hauteur de la mer, par des gens qui font de la recherche en terrain sauvage, en forêt ou autre, pour repérer des plans d'arbres, pour les repérer sur la pousse d'une année sur l'autre, pour les gens aussi qui vérifient la dérive d'une falaise, l'érosion ou la...
Ah oui, là ça se joue vraiment quelques millimètres.
Là aussi, il y a tout un tas de travaux qui sont rendus possibles par ça. Et évidemment, pour un projet comme OpenStreetMap, ça permet aussi de faire une cartographie précise de nouvelles constructions ou de nouvelles routes, par exemple.
Rappelle ce que c'est qu'OpenStreetMap.
Alors OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la cartographie. Je pense que vous serez d'accord. C'est une carte. C'est l'équivalent de Google Maps, mais contributif. C'est-à-dire
et en libre.
N'importe qui. Voilà, en libre, donc c'est des licences libres, effectivement, tout le monde peut récupérer l'information. Et ce qui est super motivant, en fait, dans OpenStreetMap, c'est que si on voit une erreur sur la carte ou une nouveauté, on peut l'intégrer immédiatement et c'est disponible immédiatement sur le site. Donc c'est extrêmement...
Gratifiant.
Voilà, c'est extrêmement gratifiant pour les contributeurs et je m'en sers énormément. Pour exemple, en matière de ferroviaire, c'est la meilleure carte ferroviaire.
Rassure-toi, Pierre. On va parler de train. Pierre est un fan de train. Il y a un sujet sur les trains après. On va en parler de train.
Donc pour OpenStreetMap, ça permet en particulier de cartographier des nouvelles routes, des nouvelles infrastructures de manière précise avant d'avoir la photographie aérienne qui en général vient quelques années après.
D'ailleurs, sur l'article qu'on a mis en référence, je lis qu'en fait ce projet permet de créer l'alternative libre pour photocartographier les territoires. J'aime bien cette expression, photocartographier les territoires.
Alors peut-être un dernier mot sur Centipede. Ouais, ils ont ce qu'on appelle un caster qui diffuse.
C'est quoi un caster ? Je me suis posé la question.
Alors le caster, c'est le serveur internet qui collecte les données de référence de toutes les bases du réseau. Donc évidemment c'est un point central très sollicité et il y a un défaut du système, c'est que cette partie-là n'est pas du logiciel libre, c'est un logiciel je crois que c'est vendu par une université sous licence, mais on peut pas le diffuser de manière libre.
D'accord.
Et c'est pour un point l'instant. Donc effectivement c'est un point de contention du système pour la montée en charge. Voilà.
D'accord. Magali ?
Alors moi j'ai deux points à rajouter parce que je trouve que c'est assez pertinent. Le premier c'est ce projet dont tu as parlé, ça venait de deux personnes dont j'ai donné le nom, Julien Ancelin qui est un informaticien agriculteur et Stéphane Pénaud ou Pienaud, je sais plus, qui est un inventeur autodidacte. Et donc de ce que j'avais compris, chacun dans leur coin ont essayé de faire des choses bien. Il y en a un qui a pris un abonnement à des marques dont tu parlais de tracteurs qui n'étaient pas libres et qui a vu le coup, a décidé d'arrêter. Il en a parlé sur les réseaux sociaux. L'autre l'a contacté et ils ont commencé à faire des choses ensemble. Et donc, c'est pas juste un serveur qui balance de données. C'est des bases de données au centimètre près. C'est un logiciel qui s'appelle RTK Base qui est libre. C'est une suite qui discute, qui s'appelle RTK Lib, qui est libre, et ils ont commencé avec un Raspberry, quoi. Tout petit ordinateur.
Non, mais c'est-à-dire que RTK Base fonctionne sur un Raspberry. Si tu veux, tu n'es pas obligé de le faire tourner sur un Raspberry, mais pour monter ta base, donc tous les agriculteurs qui sont dans le projet, a priori, ont chacun installé un Raspberry relié à Internet avec l'antenne locale. Alors effectivement, je connais Julien et Stéphane pour avoir vu leur conférence et avoir discuté avec eux. Je savais pas que Julien, pour moi, Julien était une personne de l'INRAE. Voilà, c'est pour ça que j'ai.
Non, c'est pour ça que j'ai fait un questionnement tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que
c'est bien de citer leur nom.
Voilà, c'est dans ce sens-là, effectivement. Mais Vincent, est-ce que tu veux intervenir là-dessus avant qu'on passe au sujet suivant ?
Ça sera un peu hors sujet. Moi, je ne suis pas totalement rassuré par une agriculture qui fonctionne au GPS. Mais voilà, je ne suis pas convaincu d'un point de vue social que ce soit bon pour le monde rural d'avoir des tracteurs tous commandés au GPS.
Mais... de ce que je voyais, ça évitait les chevauchements de semences ou d'entrants. Puisque comme c'est fait au centimètre près, on évite de planter deux fois la même chose ou de mettre des entrants à deux différents. Et ça évite aussi que y a des zones qui soient pas cultivées. Voilà. Mais c'est vrai que
si ça pouvait respecter les 15 mètres de limites avec les parcelles pour l'épandage des pesticides, tant mieux, mais voilà, on verra.
Bon, je pense qu'on consacrera un sujet enfin une émission à ce sujet, et visiblement l'année 2024, selon l'article, verra la création d'une association pour porter le projet Centipède et l'élaboration d'une gouvernance, et l'un des premiers projets d'améliorer l'infrastructure autour du caster dont tu as parlé tout à l'heure, pour notamment améliorer la redondance et peut-être aussi pour avoir une version libre du logiciel qui traite ça. Alors, sujet suivant, on va pas tout de suite parler des trains.
Je suis repéré, je crois.
Non, parce que bon, je suis quand même le temps qui reste, et il y a un sujet que je ne veux pas qu'on oublie de traiter, donc on va le faire tout de suite. Vu qu'on en a déjà parlé, nous, il y a 2 ans, avec Vincent, et que là, oui, la presse s'en fait l'écho aujourd'hui. Alors, c'est un article de Next Impact, enfin, qui s'appelle maintenant Next, intitulé 800 franchisés de la Poste britannique condamnés à tort à cause d'un logiciel défectueux. Alors, c'est quoi ce truc, Vincent? Tu nous avais déjà parlé dans l'émission 140 de Libre à vous, donc il y a 2 ans. Tu as fait une chronique sur ça. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler les faits?
Oui, tout à fait. Ouais, moi, ma source à l'époque, c'était un article du Monde. Alors, d'ailleurs, la première chose, c'est que les faits sont très anciens, puisque on parlait de Blender il y a 30 ans, mais c'était il y a 20 ans. Ça a commencé. Alors, pour situer, donc tout part de la Poste britannique, une grande institution qui est une entreprise publique, mais qui fonctionne avec des franchisés, des gérants indépendants, auxquels il fournit un logiciel qui s'appelle Horizon, hein, pas de rapport avec le parti, mais, qui est développé par l'entreprise japonaise Fujitsu. Et il se trouve que dès 99, il y a des différences inexpliquées au niveau des recettes et des dépenses et des ventes, au niveau des gérants des agences. Et ce qu'a fait la Poste, elle a pas dit que le logiciel avait un problème, elle a accusé les gérants de malversation et détournement de fonds. Et ils ont été accusés. Alors, il y a des cas vraiment dramatiques, hein, parce qu'il y a des condamnations pour vol. Il y avait des gens très jeunes, hein, qui s'étaient ouverts, une personne de 18-19 ans qui ouvrait une franchise de la Poste et qui sont retrouvés donc condamnés. Et là, oui, c'est l'ordre de 500. Les premiers chiffres que j'avais, c'était 550. Puis là, on passe à 800, mais c'est énorme. Et il y a eu des gens qui ont été mis en prison avec très peu de possibilités de réagir. Alors, cette affaire, ouais, effectivement, a plein d'enseignements, hein, là-dessus. Bon, il y a la partie logicielle qui a un problème et qui est pris comme argent comptant. Enfin, c'est le cas de le dire. Il y a le fait que ce qui explique aussi le retard, c'est que les gens étaient seuls, puisque c'est un système de franchise, hein, ça aurait été des employés, ben, il y aurait eu des syndicats, il y aurait un comité d'entreprise, il y aurait eu des choses. Alors que là, ils étaient seuls, donc ils ignoraient qu'ils étaient plusieurs dans le cas. Enfin, en fait, chacun était pris séparément. C'est que quand une association s'est créée des victimes du logiciel, que ça a commencé à réagir. En plus, je crois que la Poste britannique pouvait saisir la justice sans enquête de police. Bon, c'est un vieux droit historique, mais je crois qu'il doit dater de Robin des Bois, mais c'est à peu près le problème. Donc, évidemment, en niant tout et en disant, bah, comme le logiciel est bon, le logiciel l'a dit. C'est forcément la vérité. Donc ça a mis beaucoup de temps. Hein. Il y a eu des condamnations de la Poste, des annulations. Et là, ça ressort parce qu'il y a eu une mini-série télévisée. Ça, c'est intéressant d'un point de vue aussi médiatique. Hein. C'est aussi une mini-série télévisée vue qui a été un succès, qui a été vue par 10 millions de spectateurs, et c'est devenu une affaire d'État. Du fait de cette série télévisée avec excuse publique du premier ministre et ainsi de suite, on a qualifié ça de plus grande erreur judiciaire britannique. Donc il y a plein de choses là-dedans. Il y a cette ubérisation, hein, qui fait que cette solitude. Il y a le fait que finalement le logiciel a été pris comme référence et que toute personne, en plus disparition de tout document papier qui permettait de contrer, de vérifier. Et bien sûr, aucun accès au code source, évidemment, et aucune condamnation des responsables, que ce soit de l'entreprise initiale, productrice, et que ce soit des dirigeants de la Poste.
Alors, avant de laisser la parole à tes collègues, le Guardian précise, et tu l'as dit, en droit anglais et gallois, les ordinateurs sont considérés comme fiables, sauf preuve du contraire, ce qui donc renverse la charge de la preuve normalement appliquée dans les affaires pénales. Pierre, Magali, qui veut réagir? Peut-être Magali déjà?
Moi, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas eu plus de vérifications. Je veux dire qu'il y ait une personne, deux personnes, 10 personnes qui veulent arnaquer la Poste, mais alors 550, parce qu'au départ, tu disais 550 et en fait, on se rend compte que maintenant, c'est 800. Ils ne se sont pas dit à un moment donné, il y a peut-être un problème dans le logiciel. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils ont pu se mettre à... attaquer en justice 800 personnes avant de se dire il y a peut-être un problème avec le logiciel. C'est quoi? C'est un manque d'esprit critique
Alors, il faut savoir que le logiciel était fait en plus par un prestataire extérieur. Quelles étaient les compétences informatiques? Il y avait sans doute beaucoup plus de juristes que d'informaticiens au sein de la Poste. Quelle était la compétence? Et puis, je pense que oui, après... ils sont pas posé de questions, enfin ils ont que comme ils avaient la puissance pour eux, ils sont pas remis en cause, ça c'est sûr.
Pierre?
Alors, j'avais noté la même partie que toi, effectivement, cette disposition incroyable du droit anglais qui dit que l'ordinateur a raison par défaut. Alors ça, je crois qu'il est question de le changer, ou ça a déjà été changé, mais ils vont remettre en cause
ce... Alors, ce que dit l'article, c'est en attendant les résultats de l'enquête, le comité des règles de procédure pénale examinera les pratiques actuelles et les problèmes liés à la fiabilité des preuves informatiques, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice. C'est le moins qu'on puisse faire, effectivement.
Oui. J'ai vu aussi qu'il y a quand même 95 personnes qui ont réussi à se défendre, enfin, qui ont réussi à avoir gain de cause, ce qui est quand même, c'est peu par rapport aux 800. Mais c'est quand même déjà beaucoup. Enfin, on imagine les efforts et le coût que ça a dû impliquer pour eux. C'est quand même, cette histoire est vraiment effrayante, effectivement.
Alors, c'est ce qui est précisé justement dans l'article, en fait, et ce que disait Vincent, c'est que, Jusqu'avant que la mini-série existe, en fait, seulement 96 chefs de bureau de poste avaient réussi à renverser leur jugement en appel. Et donc, effectivement, quand on sait la masse d'énergie et d'argent qu'il faut pour aller en appel, et en fait, c'est la mini-série qui a révélé, en fait, l'ampleur du problème, qui a été qualifiée de pire injustice de l'histoire britannique. Et visiblement, ils ont prévu 1 milliard de livres sterling, qui correspond à 1 milliard 2, en gros, d'euros, pour les indemnisations selon la BBC de ce scandale qui est reposé sur la confiance absolue dans les ordinateurs. Oui, Vincent.
Et préciser en plus, ça s'est étalé, c'est-à-dire qu'il y a des cas jusqu'en 2014, il y avait des cas de gens qui ont été accusés. Ça a commencé en 2000, donc ça s'est en plus étalé sur presque une quinzaine d'années.
Et on revient à la chronique de Xavier Berne au début d'émission sur l'importance de pouvoir accéder aux codes sources et aux algorithmes de ce genre d'outils pour que des personnes effectivement indépendantes vérifient ce que fait ce logiciel. Pierre?
D'ailleurs, on a une disposition française, je crois, d'obligation de certification des logiciels de comptage, je crois, et qui... Alors, t'as suivi le sujet mieux que moi, donc je suis sûr que t'as plus d'éléments, mais il me semblait que ça pouvait poser des problèmes au logiciel libre, là encore, puisque ça a été une obligation de vérification, de conformité.
Les problèmes ont été levés, mais ça monte il y a très longtemps, et vu le temps qui reste, et vu que t'as envie de parler des trains à un moment, si on commence à expliquer comment ça a été levé, on n'en est pas sorti, okay. Mais on mettra effectivement la référence, c'était sur les logiciels de caisse, et en fait, un certain nombre de problèmes avaient été remontés, à la fois par des associations libristes comme l'April, et aussi par des gens qui font des logiciels libres de gestion, notamment de compta, comme Dolibar, et on avait eu des rencontres, notamment au ministère à Bercy, en fait, le ministère des Finances. Et effectivement, les problèmes avaient été, réglés un petit peu comme au niveau du Cyber Resilience Act. Mais c'est la problématique habituelle, c'est que les gens qui rédigent ces lois n'ont pas forcément en perspective et dans l'esprit toutes les implications possibles, notamment sur la partie logiciel libre. Est-ce que sur la Poste, c'est bon pour vous, Magali? Ok. Les trains. je pense que ça va être notre dernier sujet. Je surveille l'heure, mais ça va être le dernier sujet. Alors, il faut préciser, on blague un peu avec Pierre sur sa passion pour les trains, mais Pierre est non seulement un passionné de trains, mais un spécialiste de trains. Si vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est absolument passionnant. Et là, tu voulais nous parler d'un sujet concernant les trains en Pologne, c'est ça?
Oui, alors c'est une histoire absolument incroyable en Pologne. Une compagnie régionale qui faisait circuler des rames électriques dans sa région avait une trentaine de rames et Donc typiquement, un train, ça nécessite de la maintenance régulière. Et problème, les rames qui étaient envoyées en maintenance tombaient en panne. C'est-à-dire que l'atelier de maintenance appelait, écoutez, on a un problème, le train est bloqué, on n'arrive pas à le faire fonctionner comme il devrait. La société appelle le constructeur, ou l'atelier, je ne sais pas exactement, mais le constructeur des rames est contacté, c'est une société polonaise qui s'appelle Nevag. Et le constructeur dit, oh bah écoutez, oui, mais l'atelier, c'est, vous avez pas fait ça dans la maintenance dans nos ateliers agréés, vous avez attribué le contrat à un concurrent. On pense que le concurrent a fait des bêtises dans la maintenance et c'est pour ça. Il suffit qu'on va vous débloquer les rames, mais il faudrait que vous les fassiez maintenir. Il faudrait que vous nous attribuiez à nouveau le marché qu'on avait perdu.
Captation totale du problème, en fait.
Ah oui, oui. C'est, okay. Donc, la compagnie était sceptique, les ateliers aussi, parce qu'ils étaient quand même compétents. Ils n'avaient pas ils pensaient pas avoir commis d'erreur. Donc ils finissent par se dire, on va chercher des hackers informatiques. Enfin, ils ont cherché des pirates. Alors il y a toute une histoire sur le sens du mot hacker.
Ouais, parce que ça veut pas forcément dire pirate.
Hacker, ouais. Enfin, ils ont cherché. Je sais pas exactement ce qu'ils ont dit en polonais. Ouais. Effectivement, au niveau journaliste, on fait souvent la confusion, mais hacker, c'est
des personnes très compétentes.
Voilà, des personnes très compétentes, voilà. Hein, ce qu'on appelle des hackers en termes habituels, mais qui a dérivé pour dire pirate. Mais donc ils ont cherché sur Internet, ils ont cherché des
surtout gens, si tu peux me permettre, le terme de pirate est assez noble, vu que toi-même étant membre du parti pirate, je veux le permettre.
Mais c'est pas des gens qui violaient forcément la loi.
Exactement. Voilà.
Et donc on le sait pourquoi, parce qu'il y a eu un buzz polonais depuis un bon moment en fait, mais là ça a éclaté beaucoup plus médiatiquement dans le monde entier, parce que les personnes qui se sont occupées de cette affaire ont présenté leur résultat à une conférence de sécurité informatique allemande ultra connue, dont j'oublie le nom, désolé.
C'était au CCC ou
C'était les trucs dans cette mouvance, mais il y a un autre nom avec des lettres et des chiffres que j'arrive pas à me souvenir. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que les gens en question ont étudié les systèmes. Ils se sont aperçus que il y avait des trucs très très bizarres. Ils ont réussi à faire démarrer en train, en fait. Ils ont regardé comment, ils ont fouiné dans l'intérieur du fonctionnement logiciel du train. Ils n'ont pas modifié le logiciel parce que ça peut poser des problèmes de conformité et de sécurité, évidemment. Mais ils ont quand même trouvé l'endroit où le train a été bloqué pour forcer le déblocage. Dans leur conférence, ils expliquent d'ailleurs que les ateliers qui les avaient mandatés pour cet audit commençaient à perdre patience parce que ça leur a mis énormément de temps. C'était des systèmes extrêmement particuliers dont on n'a pas forcément l'habitude quand on est informaticien. Donc ils ont pris un temps énorme pour faire ça. Et en fait, 45 minutes plus tard, le responsable de la boîte venait leur enlever le contrat en fait. Ils ont réussi à débloquer dans les 43 minutes avant la deadline. Et ils se sont aperçus, en fait, que le constructeur avait mis du logiciel à l'intérieur du logiciel du train pour bloquer automatiquement le train sans message d'erreur, donc comme une panne, simule une panne, si le train restait 20 jours, 21 jours, je crois, au même endroit. Donc c'était vérifié par le GPS. Et il y avait une autre disposition qui vérifiait que si le train était dans certains lieux particuliers. Donc ils ont retrouvé les coordonnées géographiques des endroits correspondants et ça correspondait à tous les ateliers en fait concurrents, y compris les ateliers du constructeur lui-même, parce que ça permettait de tester ça permettait au constructeur de tester que sa verrue logicielle fonctionnait bien pour bloquer les trains qu'on n'était pas chez eux. Et ils avaient fait également des modifications bizarrement quelques jours avant que le train arrive dans les ateliers. Donc voilà, ça a fait un énorme buzz en Pologne parce que ça va donner lieu. Alors l'autorité de la concurrence qui avait été assez peu motivé pour s'occuper du dossier a fini par s'en saisir. Il va y avoir une audition parlementaire aussi de l'équipe et de l'exploitant. Donc ça chauffe pas mal pour le constructeur qui a menacé de procès en diffamation, mais qui a priori n'a pas grand chose pour se défendre parce qu'il y a quand même énormément d'éléments extrêmement en leur défaveur, disons. Voilà.
Donc si je comprends bien, c'est un outil logiciel pour empêcher la concurrence.
Oui, c'était pour garder,
en fait,
pour torpiller la concurrence et garder le marché d'exploitation, enfin le marché de maintenance, pardon, sur le matériel en question.
Ce qu'on regroupe généralement sur le terme de DRM, les dispositifs de contrôle d'usage.
C'est du DRM pour train, voilà.
Pour train. Voilà.
Et en plus, qui n'était pas du tout. Alors souvent, les DRM, c'est fait de manière au moins. C'est souvent abusif pour nos droits, mais c'est quand même annoncé dans les contrats. Là, c'était absolument pas dit de manière contractuelle. C'était planqué, et le constructeur a même nié que ça existait.
D'accord. Vincent, Magali, une réaction ou une question ?
Je trouvais que l'obsolescence programmée, c'était moche, mais alors là, c'est pire, quoi. C'est vraiment pire.
C'est incroyable.
Ça tue la concurrence, ça oblige à aller voir le constructeur. Et en plus, ils sont même pas au courant, ils sont totalement captifs.
Ils ont caché leur jeu. Enfin, ils ont nié l'existence du souci, en fait.
Bah, j'espère que ça va leur coûter très cher, alors.
Probablement.
Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on parle d'un train. Hein. C'est pas une liseuse ou quelque chose. C'est un produit d'industrie lourde qui est stratégique pour un pays. La Pologne, c'est juste à côté de l'Ukraine. On sait que GPS peut être détourné. Ça pose aussi des questions sur la fragilité. Ils parlent de cyber-résilience, mais là, on y est très, 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 très loin avec ce type de système pour des produits, du matériel vraiment stratégique.
Alors, de manière intéressante, les personnes qui ont fait l'audit ont... c'est une hypothèse, mais il semblerait que le système initial était pour évidemment éviter des modifications logicielles anarchiques, donc pour protéger l'intégrité logicielle du train, pour éviter que il se passe n'importe quoi. Le problème, c'est qu'après le système a été détourné et étendu pour ajouter des règles abusives, en fait.
Impressionnant. Tu nous tiendras au courant de l'évolution de ce qui se passe là-bas pour savoir ce que ça va donner. Est-ce qu'effectivement il va y avoir une condamnation de l'entreprise ? Est-ce que la loi, que je ne connais pas, la loi polonaise sur ces questions-là va évoluer ou pas ? Peut-être que ça aura un écho au niveau de la future directive européenne sur le droit d'auteur, on ne sait pas.
Ou le Cyber Resilience Act ou autre.
Peut-être la V2 du Cyber Resilience Act.
Oui. Le règlement d'intelligence artificielle, je ne sais pas. ça laisse rêveur.
Ça laisse effectivement rêveur. Et sur la question donc des DRM, ces fameux dispositifs de contrôle d'usage, on en a déjà plusieurs fois parlé dans l'émission. Mais je vous renvoie à l'émission, je ne sais plus combien, mais avec Jean-Baptiste Kempf et Marie Duponchel, qui avait 2-3 ans, je crois qu'on avait parlé un petit peu, on s'est concerné plus la musique et la vidéo dans l'émission, mais ça vous expliquera un petit peu ces concepts-là et pourquoi il est aussi important de pouvoir contourner ces dispositifs de contrôle d'usage pour des questions notamment licites, ou de questions de sécurité, ou d'études des systèmes tels qu'on en a parlé tout à l'heure dans un sujet... Alors j'ai une question de Marie-Odile, alors ultra rapide, est-ce qu'on est certain que pour la France, ça n'existe pas, pour les trains français, Pierre ?
Alors on n'a pas connaissance d'épisodes comme ça, on peut difficilement être certain en fait. Je sais qu'il y a eu des bugs dans certaines séries de TGV, mais c'était des vrais bugs. Type si le TGV reculait au moment de démarrer, le moteur se bloquait et puis il était en rade. Voilà, j'ai entendu des histoires comme ça. Il y a eu des bugs dans des séries de locomotives, mais il n'y a pas eu de mise en évidence de malveillance, de volonté malveillante en fait derrière.
Alors Mag et Vincent et Mag en dernière intervention.
La SNCF a ses propres, garde quand même des compétences internes et ses propres ateliers de maintenance. Le TGV était quand même en co-construction, en collaboration avec. Là, c'est aussi le fait d'acheter une locomotive sur étagère, on va dire, si on peut.
Maintenant ça se passe comme ça. À une époque, la SNCF concevait ses matériels largement. Maintenant, c'est quand même largement externalisé. Enfin, c'est fait par des sociétés comme Alstom C'est parce qu'il y a vraiment des endroits, des choses très spécialisées comme le logiciel, justement. Il y a de plus en plus de logiciels dans les trains. Au niveau électrotechnique, c'est assez complexe aussi. Donc la SNCF s'occupe de la maintenance en général. Effectivement, c'est peut-être une des rares compagnies à le faire encore. Veut être autonome de ce point de vue-là. Mais il y a des choses quand même qui doivent relever du constructeur, du vendeur du matériel.
Magali, tu veux intervenir ?
Oui, mais ça a été déjà dit, donc je vais rajouter quelque chose. Je suis sûre que pour éviter ce genre de malversation, il faudrait utiliser beaucoup plus de logiciels libres et donc auditables beaucoup plus facilement. Ça résoudrait beaucoup de problèmes.
Eh bien, écoute, merci à vous pour cette nouvelle édition de Café Libre, donc avec Pierre Bessac, Magali Garnero, Vincent Calame, qui reste en place et qui se prépare pour sa chronique. Je vous souhaite une belle fin de journée. On va faire une pause musicale. Et donc, nous allons écouter Throne Room par Sotus. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Sometimes I'm now flying fast for the sun, but when I'm in the throne room of the matriarch, there's always time for tea.
On a écouté donc Throne Room par Sotus, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calame, donc toujours au studio, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques lectures buissonnières. Ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant les lectures d'ouvrages divers et variés. Vincent va nous parler ce mardi du livre « Une histoire des libertés associatives » de Jean-Baptiste Jobard.
Oui, tout à fait. Alors il est paru cet ouvrage en 2022 aux éditions Charles-Léopold Meyer. Il fait un peu moins de 150 pages petit format. Il est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'éditeur, eclm.fr, et aussi peut être commandé pour un montant de 13 euros chez votre libraire préféré. Alors, avant d'aborder le sujet de l'ouvrage, il faut préciser que l'auteur, Jean-Baptiste Jobard, est coordinateur du collectif des associations citoyennes. Vous retrouverez les liens sur la page de l'émission. Et ce collectif est lui-même membre d'une coalition autour des libertés associatives appelée LA Coalition. Et parmi les membres de ces coalitions, on retrouve deux associations bien connues à cette antenne, Framasoft et la Quadrature du Net. Je crois qu'il n'y a pas besoin que je les présente.
Bah, effectivement, Pouyou, co-directeur de Framasoft, était notre invité le 19 décembre 2023 dans l'émission 195. Et nous citons récemment, régulièrement la Quadrature du Net dans notre café libre. Je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure.
Oui, voilà, nous sommes en terrain connu. C'est pour ça que j'ai pensé que cet ouvrage est susceptible d'intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Nous baignons dans le tissu associatif, presque sans nous en rendre compte, ne serait-ce que dans ce studio, où nous sommes en direct dans une émission proposée par l'April, que je ne présente pas, sur la radio Cause Commune, qui est gérée par une association qui est Libre à Toi. Bref, les libertés associatives nous concernent de près, et comme le dénonce LA Coalition, l'actualité n'est pas rose. Nous aurons l'occasion de l'aborder dans une future chronique. Alors, cependant, revenons à notre ouvrage, parce que pour son auteur, Jean-Baptiste Jobard, on défend encore mieux une cause quand on en connaît l'histoire. C'est ce qui a poussé à l'écrire.
Alors justement, quand commence cette histoire ?
Ah oui, alors en France, une date nous vient tout de suite à l'esprit, 1901. Mais cette fameuse loi portée par Waldeck-Rousseau, qui consacre dans son article 2 la liberté de s'associer sans autorisation ni déclaration préalable, n'est pas venue de nulle part. C'est le fruit d'un long processus. Jean-Baptiste Jobard le fait remonter à la Révolution française et, je cite l'auteur, « L'histoire commence de bien singulière façon. par une interdiction pure et simple de la constitution d'associations de personnes signifiée dans le décret d'Allard en mars 1791 et par la fameuse loi Le Chapelier en juin de la même année. Alors évidemment, pour nous qui considérons, en tout cas en ce qui me concerne, que les associations sont des acteurs importants de la vie démocratique, ça fait bizarre. Il y a bien sûr des raisons historiques à cette loi qui signifiait la fin des corporations de l'Ancien Régime, qui bridaient la libre entreprise, mais cette loi signifiait aussi, et surtout peut-être, l'interdiction des syndicats ouvriers. Bon, pour plus de détails, je vous renvoie à la fiche Wikipédia sur la loi Le Chapelier que j'ai mis dans les références, pour en savoir plus. Alors, les régimes suivants ont quelque peu allégé la loi, mais pour ces régimes autoritaires, que ce soit l'Empire ou la Restauration, de l'association à l'agitation, il n'y a qu'un pas, et on sait que l'agitation conduit à la sédition. Bon, il faut dire que la période n'a pas été avare en sociétés secrètes conspirant contre les régimes réactionnaires partout en Europe. Alors, l'illégalité n'a heureusement pas empêché la montée en puissance de l'associationnisme tout au long de la première moitié du XXe siècle, car c'était tout simplement une question de survie. Avec la révolution industrielle, l'exode rural et la disparition des vieilles solidarités paysannes, la misère de la classe ouvrière, même si on ne l'appelait pas encore comme ça, il fallait créer de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d'entraide.
Alors, peux-tu préciser, Vincent, le terme associationnisme ?
Oui, il est assez dur à prononcer, oui. Pour ça qu'il n'y a pas eu peut-être beaucoup de succès, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une différence entre une association, un syndicat, une mutuelle, une coopérative. Ce ne sont pas les mêmes statuts et les mêmes objectifs. À l'époque, aucun de ces statuts n'existait, et l'association était illégale, même si tolérée. L'associationnisme est un terme un peu générique pour désigner toutes ces initiatives. C'est, entre guillemets, proto-association pour reprendre une expression proposée dans l'ouvrage. Bien sûr, du fait de la misère, ces proto-associations avaient une grande majorité un but économique. L'heure n'était pas encore à l'association sportive ou d'animation culturelle ou à la défense du logiciel libre. Mais nous sommes les héritiers de ce bouillonnement de l'associationnisme. Vient ensuite la révolution 1848, pour lequel d'ailleurs l'auteur a une affection toute particulière, qui voit dans un premier temps le triomphe de l'associationnisme, avec la proclamation du droit d'association dès les premiers jours de la Deuxième République, le 24 février. Malheureusement, le mouvement est réprimé dans le sang lors des journées de juin 1848, lorsque les ouvriers se soulèvent contre la fermeture des ateliers nationaux, et c'en est fini de l'espoir de la République sociale. Si la liberté d'association demeure dans la Constitution de la Deuxième République, le Second Empire pointe très rapidement le bout de son nez et met fin à la récréation en soumettant toute création à une autorisation préfectorale. Les grèves sont sonnées, cependant, elles attendent la Troisième République pour germer. Et comme le temps est court, je vous propose de m'arrêter là pour aujourd'hui, de vous parler de la suite dans ma prochaine chronique.
Bah écoute, merci Vincent. Effectivement, comme tu dis, le temps est court, mais chronique toujours aussi passionnante. Donc le livre, c'est « Une histoire des libertés associatives » de Jean-Baptiste Jobard. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour la suite de ta chronique.
Tout
merci
à fait.
Vincent. Allez, nous allons terminer par quelques annonces très rapides. Alors, dans les annonces... ça va faire plaisir à Vincent, qui, si je me souviens bien, tu es franco-suisse. Oui. Les 7e rencontres hivernales du Libre auront lieu du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier à Saint-Sergue, en Suisse, avec des conférences et des ateliers. Il y aura peut-être de la fondue, je vous rappelle aussi, pour les gens qui rencontreraient un jour Vincent, de lui demander sa recette de fondue ou même de vous faire préparer une fondue par Vincent, c'est une merveille. Donc, dans les événements, il y a également chaque premier vendredi du mois la radio Cause Commune, sur laquelle nous diffusons avec plaisir cette émission, organise une rencontre à partir de 19h30, donc chaque premier vendredi du mois, au studio de la radio dans le 18e arrondissement de Paris, au 22 rue Bernard Dimet. Donc la prochaine rencontre aura lieu vendredi 2 février 2024 et je participerai à cet événement. Et comme chaque premier samedi de chaque mois, donc de 14h à 18h, vous avez un événement logiciel libre au Carrefour numérique de la Cité des Sciences de l'Industrie à Paris à partir de 14h pour vous faire installer et paramétrer des logiciels libres. Et il y a également des propositions, enfin il y a également des ateliers et des conférences. Donc la prochaine aura lieu samedi 3 février 2024 avec l'installation par exemple de distributions libres comme GNU Linux et peut-être de FreeBSD si Pierre Bessac est présent. Mais je ne sais pas. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Xavier Berne, Magali Garnero, Pierre Bessac, Vincent Calame, aux manettes de la régie aujourd'hui, Élise. Je remercie également mon collègue Étienne Gonu pour avoir participé à la préparation de l'émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Vous pouvez également nous suggérer des sujets à traiter. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou tout simplement nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 janvier 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les jeux de rôle libres. Elle sera animée par ma collègue Isabella Vanni et par Luc, qui est chroniqueur également dans l'émission. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 janvier et d'ici là, portez-vous bien.